ce moment où le silence se fait en 2 secondes. Voilà, donc le deuxième service n'a pas tout à fait fini de manger le délicieux flan au coco, mais ils vont arriver. Donc je vais en attendant dire 2 mots sur China. Enfin, j'en ai dit un petit peu tout à l'heure et elle sait très bien se présenter. Comme je vous le disais et comme nous l'avons vu, la foi, ça procède aussi d'une rencontre, surtout d'une rencontre et peut-être même uniquement d'une rencontre, je crois. Et donc, China, la foi pour toi, ça a été une rencontre. Enfin, la foi, ça a été ta famille. Tu as baigné dans l'islam dans ton enfance. Et puis après, il y a eu une rencontre dont tu vas nous parler. Et je voulais vous dire aussi, pour être tout à fait honnête, que China et moi, on est très amis, en fait, grâce à Laurent Gibovski qui nous a présenté un jour. Et puis, on ne s'est plus quittés parce que moi aussi, j'ai un lien avec l'islam. Hein. Vous êtes sûrement nombreux à savoir que je suis mariée depuis 30 et quelques années avec un musulman. Et donc, on avait vraiment beaucoup de liens, beaucoup de choses à nous dire, toutes les deux, sur ce terrain-là. Abderrahim, mon mari, est très proche de China aussi, il s'aime beaucoup. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais lui passer la parole. Merci, China, d'être là.
Vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez ?
Il va le lancer. Voilà, je crois que là, vous allez m'entendre. Voilà, donc merci d'être là, si nombreux, parce que vous avez déjà vécu 3 jours intenses et je me disais, ils vont aller dormir, mais vous êtes là. Alors j'espère que vous ne le regretterez pas. Je vais commencer peut-être en m'excusant dans un premier temps. Je le fais toujours parce que, en fait, moi, j'ai un esprit spiralaire. Je ne suis pas cartésienne. Et donc, quelquefois, une idée m'emporte, même si j'ai écrit un texte. Et ça n'aide pas toujours tout le monde à écouter. Donc, je vous prie vraiment de m'excuser. Alors, d'où je viens ? Je suis née à Madagascar, à Diego Suarez, dans une famille de 8 enfants, la petite dernière. Une famille de... Mon père était Moula chiite. Il était très connu. Il était connu dans tout l'océan Indien. Il était connu en Inde, au Pakistan, au Kenya, en France. Il était connu et Moula réputé. J'ai grandi dans beaucoup d'amour parce que nous vivions en famille élargie. J'ai vécu et j'ai baigné dans le swahili avec le cuisinier. Avec ma nénène, je m'endormais avec les berceuses malgaches. Avec mes parents, je parlais gujarati. Et c'est la langue du nord-ouest de l'Inde. Ma langue maternelle, je continue à rêver et à pleurer en gujarati. Et j'ai appris le français à l'école française de Antananarivo. Et j'ai même appris que mes ancêtres étaient les Gaulois. Simplement, on me l'a pas accordé quand je suis arrivée en métropole. Mon père a été naturalisé en 1947 français, donc nous étions français, et nous sommes partis de Madagascar au moment où ils ont mis les Français à la porte. Papa travaillait beaucoup avec les Français et nous sommes devenus migrants. Nous avons commencé par nous réfugier à l'île Maurice. Pendant 3 ans, papa a eu un contrat avec la mosquée de Port-Louis, puis nous nous sommes installés à l'île de la Réunion, département français où on pouvait recommencer à travailler. Et quand on migre, on a la peur de tout perdre et la peur de se perdre. Et la première chose qu'on fait quand on migre, on cherche ceux qui nous ressemblent et avec qui on pourra être en sécurité pour pouvoir sortir dehors. Je n'ai pas souffert de la faim. Je pense que les grands dans la famille, puisqu'on était dans un 2 pièces à 10, les grands n'ont pas trop mangé. Nous, en tout cas, les petits, on n'en a pas trop souffert. Ma vie était rythmée par la prière. Elle était scandée par la récitation des sourates. La méditation des 99 noms de Dieu, d'Allah, Roxane en a très bien parlé. Ça nous permettait de goûter la saveur d'un des attributs de Dieu, le miséricordieux, celui qui donne la paix, celui qui est le plus proche de nous, le tout-puissant, l'au-delà de tout. Et ces 99 noms nous permettent à chaque fois, quand on en goûte un, de ne jamais enfermer Dieu, de ne pas le connaître parce qu'il est toujours plus que ce qu'on dit de lui à ce moment-là. Toutes mes journées, toutes mes actions, toutes mes paroles commençaient par « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Quand en France et en Occident on parle de la soumission, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire pour les musulmans. Se mettre sous le regard de Dieu, se mettre sous sa parole, se mettre sous sa volonté, s'abandonner totalement à lui. Alors je sais qu'il y en a pour qui c'est dur, mais s'abandonner à sa volonté, effectivement, dans certaines familles, ça peut paraître de la fatalité, et il y en a. Il y en a qui le vivent comme quelque chose qui est déjà prévu par Dieu. Mais quand on est en recherche constante, comme mon père l'était, il nous disait simplement « Dieu sait, Dieu est plus grand, et mets-toi sous sa volonté et ton chemin s'ouvrira ». Il nous le disait très souvent. Les chiites, contrairement aux sunnites, s'appuient sur des médiateurs que sont les 12 prophètes, c'est-à-dire la descendance de Mohammed alayhissalam. Et en fait, ils sont là pour nous conseiller, nous nous appuyons sur eux, nous regardons leur vie pour voir comment vivre en bon musulman. Et l'appel à l'aide est une chose très facile, parce que la vie communautaire et la solidarité dans la communauté est très forte. On n'est jamais abandonné. Et ça m'a structurée. Cela vraiment m'a donné une colonne vertébrale. Depuis toujours, je sais que Dieu, comme le dit la sourate 50 au verset 16, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Il est présent, sans cesse, dans toutes nos journées. Comme j'étais la petite dernière, j'étais assez gâtée, parce que j'étais tout le temps dans les pantalons de mon père. Je le suivais partout. Il m'a emmenée à tous ses voyages, en Inde, au Pakistan, à Rome, à Nairobi, on est allé en Italie, alors à Rome, oui, en France. Et partout, il n'hésitait pas à sortir son tapis de prière quand l'heure était venue. Il trouvait un petit coin. Aujourd'hui, en France, il serait fiché SSSSSS+. C'est sûr. Quand on allait chez les uns et les autres, il leur disait, il était toujours très heureux de rencontrer du monde, quel qu'il soit, il leur disait juste faites-moi des légumes ou faites-moi du poisson ou des œufs. Voilà. Et on mangeait à toutes les tables. Il m'a ouvert à Rome, on est arrivé devant Saint-Pierre, j'avais 13 ans, et il me dit, et le pape Paul VI était à sa fenêtre, et il m'a dit incline-toi. Parce que sa bénédiction est bonne à recevoir, c'est un homme de Dieu. Donc nous avons vécu comme ça avec lui. Moi, je buvais ses paroles, j'étais aussi très gâtée par lui. J'ai eu à Madagascar quand même la première poupée qui chante, qu'il avait ramenée de France. Voilà. Et ses sermons étaient très, très écoutés, connus, suivis. Il nous donnait le sens de notre vie sur terre, le sens des prescriptions. Il était très exigeant. Il était très exigeant, mais très aimant. Et J'allais régulièrement à la rencontre avec lui de Gilbert Aubry, évêque de La Réunion, qui vient juste de céder sa place à un autre évêque à La Réunion. Et Gilbert et lui, c'étaient des amis. J'ai appris avec eux, en les écoutant, ce que c'était que le grand djihad. Le grand djihad, dans le Coran, c'est de se rendre meilleur grâce à l'autre et de faire en sorte de toujours aller plus loin dans les bonnes œuvres pour que nous soyons vraiment à l'égal de ce que les prophètes nous demandent de faire. Et j'ai compris ce que c'était que ce grand djihad. Et avec Gilbert et avec papa, ce que je voyais, c'est que jamais ils n'ont cherché à se convaincre. Mais ils parlaient de leur foi et ils étaient obligés d'aller toujours plus loin dans leur foi. Quand papa est mort, Gilbert Aubry est venu et il nous a dit « Il est déjà dans la communion des saints ». Moi, je n'ai pas compris, mais c'est bien plus tard que j'ai compris ce qu'il avait voulu dire dans la foi. Dans la foi en Christ, en tout cas. Maman, elle nous a inculqué le sens de la communauté, de la solidarité. Alors, c'est très difficile, parce que quand on grandit et que c'est le groupe qui est plus important que l'individu, c'est très difficile. On est toujours dépendant du regard de la communauté. Et puis, nous, il fallait toujours, nos frères et sœurs d'ailleurs, il fallait toujours que nous portions l'honneur de la famille Manji Taora. J'étais quand même fille de Moula et je devais faire honneur. Et on n'avait pas le droit de faire n'importe quoi. C'était lourd et c'était un grand poids à porter. L'hospitalité est extraordinairement forte. Chaque fois que quelqu'un venait à la maison, qu'on ait envie ou pas de le recevoir, maman nous disait, c'est un hôte de Dieu. Tu ne montreras ni impatience, ni tu ne feras pas la tête, parce que tu ne seras pas digne de nous alors. Et on a été habitués à toujours faire attention aux personnes, s'il leur manquait quelque chose, si elles allaient bien ou pas. Alors aujourd'hui, quand on reçoit, mais Dominique est comme moi pour ça, quand on reçoit à la maison, eh bien, si je reçois un hindou, eh bien, je ferai en sorte de lui cuisiner ce que ses prescriptions lui demandent. La viande est halal à la maison, je reçois ma famille comme ça, sans problème. Et s'il faut faire kasher, et même s'il faut, et ça m'est arrivé pour la mamie juive, nous étions tout seuls quand nous sommes revenus en France, à Paris, après notre mariage, une mamie juive nous gardait nos enfants, je l'ai invitée à la maison, j'ai acheté de la nouvelle vaisselle, j'ai acheté de la viande cachère, je n'ai pas du tout cuisiné du lait avec la viande, et elle a pu manger chez nous. Voilà, c'est pour moi, je ne cherche pas à faire, il n'a qu'à se conformer à ce que nous on est, c'est pas la peine de... Voilà, c'est cette hospitalité qui m'a structurée également. Et je dirais que mes parents et ma communauté d'origine m'ont donné à grandir dans une relation habitée et orientée. À l'adolescence, j'avais envie de tout faire exploser comme tous les adolescents. Et j'étais rebelle, je séchais les cours. Je commençais à me poser des questions sur ce que je voulais être, parce que c'est vrai que c'était tout tracé. J'étais fille d'une grande famille de la diaspora indo-musulmane. Je devrais donc me marier avec une grande famille de cette même diaspora. Voilà, il y a une voie tracée et je n'avais pas du tout envie de ça. Mais je ne savais pas forcément l'exprimer. Les injonctions entre l'école, ce que me disait la société française, la culture occidentale, ce qu'on me disait à la maison, qui je suis, qu'est-ce que je voulais être, et ça me torturait. Et pourtant, j'étais vraiment pas malheureuse, ni enfermée, ni quoi que ce soit. Je ne portais pas le voile. Papa nous avait toujours dit « Le voile, c'est votre pudeur. C'est la manière dont vous allez savoir vous tenir en dignité. » Et maman portait effectivement une étole sur la tête parce que c'est aussi très culturel. Donc à 13 ans, papa m'a emmenée faire le pèlerinage à la Mecque avec eux. Et là, ce que j'ai vécu a été extrêmement fort. La présence de Dieu était vraiment palpable. Pour le pèlerinage, on se met en état sacral. On met en ordre toutes ses affaires. Et en faisant cela, on se met en ordre à l'intérieur de nous-mêmes. On met de l'ordre, on nettoie. On va faire le point, on règle ses dettes. On demande pardon aux uns et aux autres. On se dit qu'on va à la Mecque comme on ira dans notre dernière demeure. On se rappelle pourquoi nous sommes créés, vers qui nous devons nous orienter totalement. On apprend, pendant le pèlerinage à la Mecque, effectivement avec des cailloux, à rejeter le mal qui est en nous, le mal qu'on a fait, le mal qui peut venir nous troubler. On se revêt d'un vêtement blanc sans couture, qui deviendra notre linceul le jour de notre mort. Et ce linceul blanc, ce vêtement sans couture, quand on est à la Mecque, ça veut dire qu'il n'y a plus ni pauvre, ni riche, ni noir, ni blanc, j'allais dire ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave. J'ai touché la miséricorde ces jours-là. Et pourtant, oui, Dieu était présent et je le savais. Pour moi, l'existence de Dieu n'a jamais été un problème. Mais il y avait une quête et une grande béance en moi. Et cette quête et cette béance étaient à la fois mon identité, ce que je voulais être, ce que je voulais devenir, et je voulais toucher Dieu du doigt et je n'y arrivais pas pourtant. Du coup, j'ai demandé à partir à 15 ans à Paris. Pour mon père, ça a été un drame. J'avais un frère et une sœur qui s'étaient installés à Paris au moment où on a quitté Madagascar et qui y habitaient donc déjà depuis quelques années. Et ce qu'ils ont trouvé pour pouvoir me protéger, c'est de m'inscrire dans un internat religieux à Paris, à Sainte-Geneviève, en se disant avec les sœurs, elle sera en sécurité. Les sœurs, c'est des femmes de Dieu. Elles te respecteront comme musulmane. Et effectivement, je suis arrivée dans cet internat, puis au lycée Sainte-Geneviève en seconde. Et là, des jeunes de l'aumônerie, dont Laurent Giboski, maintenant vous savez comment je le connais, il avait 19 ans, les cheveux longs et la guitare déjà. Des jeunes de l'aumônerie sont venus présenter dans toutes les classes les activités et les propositions qu'ils faisaient. Ils avaient l'air assez dynamiques et heureux. Et moi, je me suis dit, ça va être génial, je vais pouvoir sortir de l'internat. Si je vais à l'aumônerie, je vais rencontrer des garçons et je vais pouvoir aller fumer. Et donc... Je suis allée à l'aumônerie pour ça. Il y avait un prêtre, notre aumônier, qui est décédé l'année dernière, qui est devenu mon parrain plus tard. Alain avait, et les adultes qui étaient là, avaient une manière d'être assez extraordinaire. Il y avait toutes sortes de gens qui fréquentaient l'aumônerie. Des chrétiens engagés, des gens qui venaient là pour voir ce qui se passait, des leaders, des suiveurs, des gens de passage, moi la musulmane qui débarquais là, personne n'était obligé de montrer carte blanche, patte blanche, personne n'était obligé de s'engager, on venait, on allait, on choisissait une activité, on venait juste déjeuner avec un sandwich et fumer sa cigarette et papoter, on venait à un débat, personne ne nous demandait rien. Mais il y avait des propositions aussi de prières, de célébrations. Le MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, était proposé avec des groupes de jeunes qui prenaient du temps avec la spiritualité ignatienne, prendre le temps de relire sa vie, de voir comment ils allaient faire des choix, de se mettre à l'écoute de la parole, etc. Bon, moi je venais déjeuner et ces jeunes-là m'ont regardé très émerveillé en s'intéressant à moi, à ma culture, à ma foi. Jamais ils m'ont demandé quoi que ce soit, ni n'ont cherché à me convertir. Mais plus ils me demandaient des choses, plus j'étais obligée d'approfondir et plus je me redressais. J'ai rencontré des gens, des Français de vieille souche, parce que moi je suis française de nouvelle souche. Des Français de vieille souche qui m'ont aidée à entrer dans les codes de la société française, parce que ce n'est pas parce qu'on est français dans l'océan Indien qu'on connaît les codes parisiens du 6e, 5e arrondissement. Et donc, ils m'ont aidée à comprendre la littérature, ils m'ont emmenée au théâtre, ils m'ont emmenée au musée. Je suis allée à Sarlat dans une famille, j'ai eu à vivre un opéra en plein air, j'ai goûté le fromage, voilà, ils m'ont petit à petit inculturée. Je suis allée dans des rallyes, j'ai moins bien aimé, mais j'ai appris le rock et le Madison. Ça, c'était super. Bref, les sorties, les soirées, et puis les sœurs me laissaient partir puisque j'allais avec l'aumônerie, donc... Et je n'avais pas le besoin, du coup, de demander l'autorisation à mes parents. Et puis, il y avait aussi Solidarnosc. On s'est battu, on est allé en Pologne. Il y avait le Larzac, avec tout ce qui était autour de la non-violence active, les objecteurs de conscience dans nos animateurs d'aumônerie et Lanza del Vasto, qui était très présent, du coup. Il y avait... François Mitterrand en 81 et la grande fête à la Bastille. Et donc, ce que j'ai vécu, c'est avec des gens, une vie qui explosait, engagée, très dynamique, et avec des gens qui avaient la foi chevillée au corps. Et ça laisse vraiment des traces. Ça laisse vraiment des traces. J'ai commencé à aller dans un groupe MEJ où on m'a acceptée et je faisais tout ce qui était relecture et je commençais à travailler sur l'actualité, sur ma vie, faire ma relecture personnelle avec mon carnet de bord, voir comment je voulais orienter ma vie. Et ça me parlait beaucoup. Ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et puis un jour arrive Noël et puis ils préparent leur célébration. Puis moi, je me dis, je vais rentrer et je me dis, j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien aller voir ce qui s'y passe, comment ils prient. Je les vois chanter. Alors ça, chanter avec Laurent, on n'y coupait pas. Je les voyais bien vivre cette foi assez turbulente. Il y avait quelque chose de fort aussi, c'est qu'ils contredisaient des adultes. Des fois, ils n'étaient pas d'accord avec le prêtre. Alors pour moi, ça, c'était incroyable, quoi. Qu'on puisse être... s'opposer à des adultes ou à des prêtres, je me disais, mais c'est fou. Des choses qui me choquaient, ils jetaient la Bible, nous on jette jamais le Coran, c'est juste pas possible. Et puis on m'expliquait que, la parole, c'était pas le texte, comment ça devenait parole, les écritures, etc. Bon, bref, je regardais, j'écoutais, puis je vais à Noël, à la célébration de Noël. J'arrive en retard, je me mets au fond, il y avait un très beau climat de prière. Et j'entends, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et c'était chanté. Et là, je le formule comme ça maintenant, ce que j'ai ressenti, c'est le fait que le Christ s'incarnait en moi. J'ai ressenti que le Christ m'a saisie, mais tout entière. Et quand je dis tout entière, c'est pas avec une partie de moi. C'est tout entière avec tout ce que je suis, toute mon histoire. Le Christ a fait ce jour-là sa demeure en moi. Quand ça s'est passé, j'ai eu très peur et je me suis enfuie. Ce n'était juste pas possible, c'était que de l'émotion. C'était du gousi-gousi parce que c'était très beau, mais ce n'était pas vrai. Ça ne peut pas être possible. Je ne peux pas faire ça à mes parents. Comment je peux les trahir? Comment je vais les regarder dans les yeux? Et puis non, non, ce n'est pas possible. Donc je me suis enfuie, je me suis tue, je ne suis plus jamais allée à aucune célébration et puis j'ai continué les activités et les amitiés. Arrive, c'est très dur ce conflit de loyauté. Je crois que j'ai envie de juste faire une parenthèse. Ne croyez pas que quand les gens d'origine musulmane ou d'autres hésitent, ne vont pas complètement, c'est qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne sont pas sûrs ou qu'ils font... Non, ce n'est pas facile. Quand vous accompagnez des catéchumènes, faites attention à ça. Ils ont le droit de reculer, de se décaler. Accompagnez-les dans ce conflit de loyauté. Il y a le morcellement identitaire qui est en jeu, là. Vous n'imaginez pas ce que ça peut faire dans... Et ce n'est pas possible. J'aime mes parents m'adorent, j'adore ma communauté, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Et ce n'était pas une question de danger pour moi, en l'occurrence. Deuxième fois, le problème, c'est que Hugues et Laurent et un couple de l'aumônerie, dont la femme est devenue ma marraine après, eux, ils m'ont invité à leur choix apostolique, qui est un temps où les jeunes disent ce qu'ils veulent devenir et ce qu'ils veulent être au moment d'une célébration. Et Hugues et Laurent... Hugues était père abbé à Notre-Dame-des-Neiges, et puis là, je crois qu'il est allé s'installer à Cîteaux maintenant que c'est fermé, faisaient leur choix apostolique, et Gildas et Béatrice témoignaient pour leurs 10 ans de mariage. Et là arrive le texte de l'Évangile. Celui qui ne quitte pas son père, sa mère, ses frères et ses sœurs n'est pas digne d'être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne d'être mon disciple. Et là, je me dis, non mais c'est quoi cette histoire? C'est pas pour moi. Et je suis partie. Je ne suis pas restée jusqu'à la fin. Une troisième fois, quelques mois plus tard, j'entends un groupe qui travaillait sur un texte et j'entends, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Et là, je m'écroule. Et je dis « Amin ». Je ne sais pas ce que ça allait engager, je n'étais pas du tout sûre de moi, mais le problème, c'est qu'il ne m'a pas lâchée et qu'il ne m'a plus laissée tranquille depuis ce jour-là. C'est très dur parce que je ne savais pas quoi faire de tout ça. Donc, je suis allée voir Alain, mon parrain, et je lui ai dit ce qui m'arrivait. Et il me dit, on n'est pas dans la merde. Parce qu'il imaginait bien que, étant fille de Moula, ça allait compliquer la tâche. Et effectivement, j'ai été tout de suite récupérée et suivie par l'évêché de Paris. Alors, François Marty, ça a été extraordinaire. Les temps de rencontre que j'ai eus avec lui, il me disait, Chaïna, t'es déjà baptisée en esprit, t'inquiète pas, prends ton temps. On a le temps. Dieu, il a le temps. Vas-y. Voilà. Donc, je continuais mes engagements petit à petit, etc. Puis arrivait l'Ustiger. Alors aujourd'hui, je lui pardonne et je comprends. C'était pas facile, je pense. Et puis, ce que je vous dis là, c'est très facile à 59 ans. J'étais incapable de l'expliquer à 15 ans, 16 ans, donc on pouvait tout à fait croire ce qu'il croyait. En fait, il a mis plein de... comment on dit ?
De conditions.
Merci. Il a mis énormément de conditions. Il fallait que je rompe avec ma famille. Est-ce que j'étais sûre de renier ma communauté ? Est-ce que je voulais que mon oui était vraiment oui ou mon non était pas non ? Et puis, est-ce que j'étais prête à ceci ? Est-ce que j'étais prête à cela ? Et puis après, le problème, c'est que j'ai commencé à vivre avec celui qui est mon mari, en cachette de ma famille, bien sûr. Donc, comme je cachais trop les choses, j'étais pas claire, j'étais pas certainement pas prête. Et puis, je vivais déjà dans le péché. Alors ça, pour me faire baptiser, c'était quand même problématique. J'étais suspecte de partout, en fait. Donc, un jour, j'ai dit à Monseigneur Lustiger, « Eh bien, vos lois sont pas justes. Et si il faut tout ça pour vous suivre, je viendrai pas, ma communauté est bien meilleure. » Au revoir. Et je lui ai claqué la porte au nez. Le problème, c'est que le Christ, lui, ne m'a pas lâché. Et même si j'étais revenue à la Réunion pour faire mon temps un peu avant de revenir faire mes études, je me rendais compte que le Christ, lui, ne me lâchait pas. Et que pour suivre le Christ, j'ai besoin d'autres, d'aînés dans la foi. Et que du coup, j'ai besoin de l'Église. Donc, on a continué avec Meryl à avancer. Et puis lui, il est plutôt distant avec tout ce qui est Église. Hein, mais il était avec moi quand même. Et on a eu vraiment à se battre, parce qu'on a eu beaucoup de refus, jusqu'au jour où Saint-Méry a accepté. Le prêtre de Saint-Méry a accepté que je sois baptisée et que nous puissions nous marier, du coup, le même jour, parce que ça faisait quand même un bout de temps qu'on attendait. Et on s'est mariés à Saint-Méry. J'ai dit la première sourate du Coran en arabe à l'entrée de l'église, signe de ma première alliance avec Dieu, parce que la foi, je l'ai reçue dans ma tradition. Qu'elle a été Jean-Baptiste pour moi, parce qu'elle m'a permis, par tout ce qui était prêt en moi, de recevoir le Christ et de le rencontrer. Meryl a dit cette sourate en français, puis il y a eu le baptême, et on est allé vers l'autel pour le mariage, et on a lu l'évangile, etc. Et on a déposé tout cela au pied de l'autel. La paterne était très lourde ce jour-là. Je me suis convertie au Christ. Je ne me suis pas convertie à une religion. La conversion, c'est un retournement. C'est aujourd'hui, il y a quelque chose qui est comblé totalement. Quand le Christ est venu me saisir, il m'a saisi avec toute mon histoire. Et c'est ça qui est incroyable avec lui. C'est qu'il ne nous demande pas d'être autre que ce que nous sommes. Il nous demande avec ce que nous sommes, simplement, si nous voulons dire oui et avancer à sa suite. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il a fait tout exploser. Et c'est pour ça que je suis devenue, je pense, très libre et très subversive grâce à lui. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me bats à chaque fois qu'on veut instrumentaliser le Christ pour en faire que des lois figées, des prescriptions. Il n'est pas mort sur la croix pour ça, me semble-t-il. Mes deux alliances se fécondent et conversent sans cesse mutuellement. Quand je me lève le matin, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je me mets sous le regard de Dieu et je dis que ta volonté soit faite, ou je dis qu'il me soit fait selon ta parole. quand régulièrement, comme aujourd'hui, je me mets sous son regard en disant, non pas pour ma propre gloire, mais pour ta gloire. Envoie-moi ton esprit et que je puisse le dire, mais pour toi, pas pour moi. Je me méfie de moi. Je ne voudrais pas que... Voilà, enfin bon, bref. C'est un trait d'union, c'est un pont. Il y a un écart du coup en moi, il y a un décalage. Je ne suis ni d'ici ni d'ailleurs. Ce n'est pas facile, parce que je suis sans cesse en train de regarder si je suis bien à ma place, en fait. Et je ne suis jamais sûre d'être à la bonne place. Mais je pense que...
Excusez-moi.
Je pense que je le vis plus sereinement aujourd'hui. Celui qui m'a aidée à vivre sereinement, c'est Christian de Chergé. Quand en 2006, Christian Salençon a sorti une théologie de l'espérance, je travaillais pour les évêques à ce moment-là et je l'avais reçue en service de presse, je l'ai lue en une nuit et j'ai tout compris. Le voile s'est déchiré. J'ai compris et ma vie a été unifiée. Oui, j'avais raison de ne pas renier ma foi première. Oui, mes parents sont dans la communion des saints avec moi parce qu'ils sont près de Dieu aujourd'hui. Oui, Christian de Chergé faisait la Lectio Divina sur les sourates du Coran. Je peux dire la Fatiha sur la tombe de mon père et de ma mère. Et je n'ai pas à en avoir peur, ce n'est pas du syncrétisme. Le sommet est le même, les chemins sont différents. Il est l'unique, mais le Christ me l'a révélé totalement, pleinement, en abondance. Merci.
Je pense que ça vaut 2 minutes de silence, si vous êtes d'accord, hein, pour écrire, pour laisser les paroles descendre en nous.